Et il est temps maintenant de retrouver le rendez-vous du libraire. Avec aujourd'hui autour de la table Caroline Berthelot de La Femme Renard, bonjour.
Bonjour.
Daniel Deloche et Philippe Bernadou de la librairie Deloche, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là pour nous donner quelques idées de lecture. Et on va commencer avec Philippe. Non,
ou Daniel.
Avec Daniel. Allez.
Merci Rémi.
Bonjour.
J'accepte ton invitation. Eh bien, je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément plu, qui s'appelle L'arbre du pays Toraja, qui est écrit par Philippe Claudel. C'est l'histoire d'un homme, il a 50 ans, il vient de perdre son meilleur ami d'un cancer, et ma foi, lui-même, il ne se sent pas très bien, quoi. Alors, il se demande quels sont les rapports des vivants et des morts, il se demande quelle est la part de vie et de mort en chacun de nous. Il s'interroge sur le fameux couple corps-esprit. Ça marche assez bien pendant des années, le corps se soumettant assez docilement. Et puis un jour, il vous trahit. Alors la discorde s'installe et ça finit comme dans la chanson de Brassens, dans l'enterrement sur la plage de Sète. Ils ne sont plus d'accord que sur un seul point, la rupture. De son côté, l'esprit, à force de coups durs, il voit le mal partout. L'amertume s'installe comme une cousine de province revêche. Bref, on est moins vivant. Et justement, à quel moment est-on le plus vivant? Pour l'auteur, c'est sans conteste. Quand il est amoureux, quand il tourne un film, quand il écrit ou qu'il lit un bon livre. Enfin, il écrit de bons livres, justement. Parce que l'histoire de cet homme de 50 ans, c'est lui-même, c'est Philippe Claudel, à peine transposé. Il continue de marcher dans sa vie comme sur les pavés de Venise, de marcher en compagnie de cet ami mort, avec ses amours passées et présentes, avec ses projets et avec ses questions. Je ne vous lirai qu'un tout petit passage pour vous montrer la beauté de ce texte qui explique le titre du livre « L'arbre du pays Toraja ». Dans une île indonésienne, on enterre les bébés morts dans un arbre majestueux en faisant un trou dans le corps. Au fil des ans, lentement, la chair de l'arbre se referme, gardant le corps de l'enfant dans son grand corps à lui, sous son écorce ressoudée. Alors, peu à peu, commence le voyage qu'il fait monter vers les cieux, au rythme patient de la croissance de l'arbre. Voilà, je vous conseille ce livre qui devient justement un compagnon de vie et que j'ai dédié à une amie très chère, une amoureuse des livres, cliente donc aussi, mais que je n'ai jamais rencontrée, qui aurait aimé beaucoup ce livre et dont je viens d'apprendre la mort.
Philippe Claudel, L'arbre du pays Toraja. Le rendez-vous du libraire avec l'hippo d'Amérique, Philippe.
Eh oui, je vous ai dégoté un livre bien barré comme on les aime. C'est l'histoire authentique de Frédéric Russell Burnham, un de ceux qui ont forgé la légende qui a fait croire que tout était possible en Amérique. Burnham est éclaireur, et c'est l'un des meilleurs d'entre eux. Alors un éclaireur, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner l'heure de passage de la diligence en collant son oreille au sol, ou de dire combien d'Indiens sont en embuscade derrière les rochers, rien qu'en écoutant, si je puis dire, le silence des oiseaux. Ses talents le font se mobiliser à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, aux côtés des Anglais, dans la guerre qui les oppose aux colons hollandais, la guerre des Boers, ou des Bourges, je crois qu'il faut dire. Là, il affronte son double négatif, un fumier qui a la même fonction que lui, mais du côté des Hollandais, qui s'appelle Fritz Duquesne. En plus, avec un nom comme ça, il doit avoir du sang français, le rascal. Ces deux-là se sont promis réciproquement la mort. Et les voilà, quelques années plus tard, côte à côte, dans le soutien d'un projet qu'aucun scénariste sérieux n'aurait osé envisager. Pallier la pénurie de viande dont commencent à souffrir les États-Unis en ce début de XXe siècle, la population augmente, les bisons ont été massacrés par l'avancée vers l'ouest, et donc quelle est leur idée? D'acclimater des hippopotames dans les marais de Louisiane. Je vous laisse découvrir pourquoi l'opération a foiré, malgré le soutien de Theodore Roosevelt himself, et comment a fini ce chacal de Fritz Duquesne. Ça fait à peine plus de 100 pages, dont des photos d'époque, et on va du western au délire utopique, en passant par le Congrès américain. C'est tout bonnement passionnant. L'hippo d'Amérique, l'auteur s'appelle John Mohalem, et c'est publié aux éditions du Sous-Sol, des éditions toutes jeunes qu'on connaissait jusque-là pour leur revue qui s'appelle Feuilleton de littérature étrangère.
Caroline Berthelot, vous nous présentez La Bombe.
Exactement, et La Bombe, c'est une curiosité littéraire formidable à qui le groupement de librairie initiale auquel La Femme Renard appartient vient de décerner le prix mémorable. La Bombe, c'est un roman américain publié en 1908 et qui n'était jusqu'à présent pas encore traduit en français. On remercie au passage les éditions La Dernière Goutte pour l'avoir fait. La Bombe, c'est un roman qui nous embarque dans le New York et le Chicago de 1886 au sein de la communauté émigrée de l'époque. Le narrateur, Rudolf Schnaubelt, nous raconte son histoire, celle d'un Allemand cultivé, arrivé aux États-Unis avec le rêve d'y travailler, notamment comme journaliste, et qui va très vite déchanter, qui va découvrir la façon dont les Américains traitent les étrangers à l'époque et exercer mille petits boulots pour survivre. Dès lors, c'est à une plongée dans la tragique condition des ouvriers étrangers de l'époque que nous convie La Bombe, et l'on y apprend toutes sortes de choses, comme ce métier étrange qui consistait à travailler aux fondations du pont de Brooklyn, dans des caissons immergés à 15 mètres au fond du fleuve, par exemple. Mais La Bombe va plus loin encore, puisque Rudolf va aussi faire l'apprentissage de la cause ouvrière et découvrir le militantisme, d'abord socialiste puis anarchiste. Avec lui, nous découvrons les premiers rassemblements de travailleurs, les premières manifestations d'ouvriers, les répressions qui les accompagnent, de plus en plus violentes. Et puis, il y a cette première phrase, « Je m'appelle Rudolf Schnaubelt, c'est moi qui ai lancé la bombe qui tua 8 policiers et en blessa 60 à Chicago en 1886. » On va donc suivre dans ce roman social et réaliste la destinée de Rudolf, de son premier jour en Amérique à ses petits boulots, en passant par les réunions syndicales et sa rencontre avec un leader anarchiste charismatique qui bouleversa le cours de sa vie. Tout y est dépeint de façon passionnante, on a l'impression de revisiter un pan de l'histoire américaine qu'on connaît généralement par les photos, mais pas par la littérature. Enfin, dans La Bombe, il y a aussi la belle Elsie que rencontrera Rudolf, et l'histoire d'amour s'entrelace avec brio à l'histoire militante, jusqu'à amener notre héros à un choix draconien que je vous laisserai découvrir. Bref, La Bombe est un roman que j'ai beaucoup aimé, très facile à lire. Pour la petite histoire, c'est cet épisode, appelé aujourd'hui le massacre de Haymarket Square à Chicago, qui fut à l'origine du 1er mai.
Merci Caroline. Les rendez-vous du libraire, c'est chaque mardi, un petit peu après 18h. C'est quand vous le voulez, bien sûr, sur cfmradio.fr. Et puis, si vous préférez lire qu'écouter les libraires, alors lisez-les sur leur site internet librairiemontauban.fr. FR, écrit d'ici, c'est la nouvelle rubrique depuis quelques semaines.
Que nous propose
Philippe. Aujourd'hui, c'est Jean-Claude Drouillet qui, me semble-t-il, est président de l'association Oklahoma Occitania.
Tout à fait, c'était un choix évident puisqu'il vient de sortir un livre qui s'appelle « Du Missouri à Montauban ». Et choix évident puisque nous aurons une rencontre après-demain avec lui à la librairie de Loche, donc. Je crois que tout le monde a peu ou prou entendu parler de ces Indiens osages qui, au XIXe siècle, ont été recueillis par l'évêque de Montauban après 2 ans d'errance en Europe et que la générosité des Montalbanais a permis de rentrer chez eux. Le livre de Jean-Claude Drouillet, qui est dans un style très agréable, je tiens à le dire, et non dénué d'humour, vous permettra de comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Vous ne saviez peut-être pas, vous l'aviez oublié, que la Louisiane d'alors représentait un tiers des États-Unis, était française, et dont le territoire des Osages, et que le fameux évêque de Montauban, Louis Dubourg, avait été en poste en Louisiane. Ce n'est donc pas un hasard si ces Indiens ont eu recours à lui en dernière instance. Et puis vous apprendrez comment est née la fameuse association Oklahoma Occitania, donc Jean-Claude Drouillet président, donc, et comment depuis 1989 des échanges ont eu lieu des deux côtés de l'Atlantique entre deux peuples qui ont vécu, à des degrés divers bien sûr, la dépossession de leur langue et de leur territoire. L'histoire des Indiens osages, je veux dire l'histoire générale de leur peuple, de l'arrivée des premiers colons à nos jours, fait aussi l'objet d'un livre, « Les Indiens osages, enfants des eaux du milieu » de Marie-Claude Feltes-Strigler, qui sera aussi présente chez nous après-demain aux côtés de Monsieur Drouillet.
Eh bien, puisqu'on en est aux actualités, continuons. S'il vous plaît, Daniel.
Eh bien justement, je vais vous redire la même chose. Donc simplement, nous les recevons à 17h, Jean-Claude Drouillet et donc Marie-Claude Feltes-Strigler. Il y aura des vidéos de projetées. De toute façon, si vous passez devant notre vitrine malgré la pluie, vous avez déjà une projection sur écran télé, monsieur, d'images tournées par Jean et montées par Jean-Claude Drouillet. Et avec plein de beaux objets de ossages également.
Et donc, il y aura du pémican à la fin.
Je vous garantis pas là. Ça, c'est Philippe qui s'avance.
On continue avec vous, Caroline. Oui, le même jour.
Le même jour, mais un peu plus tard. Comme ça, vous pouvez faire les deux, si vous souhaitez, d'un monde à l'autre, une rencontre autour du roman policier à la Femme Renard, jeudi 10 mars à 19h, avec Alexis Ragugno, autour notamment de son dernier ouvrage, Évangile pour un gueux, publié chez Viviane Ami.
Ensuite.
Eh bien, ensuite, nous recevons, nous, vendredi 11 mars, de 18h à 19h, une heure poétique avec Germinal Le Dantec, que vous devez connaître, et vos auditeurs aussi. Et il vient nous présenter ses poèmes préférés du XXe siècle dans le cadre du Printemps des Poètes de cette année, qui est justement sur la poésie du XXe siècle. Vous voyez comme ça tombe bien. Donc, Germinal est bien connu des Montalbanais. Je vous conseille fortement cette rencontre un peu improvisée, venue d'une nuit d'insomnie de Germinal, qui m'a dit « Et si je venais faire ce que je n'ai jamais fait ?» Donc, venez écouter ce qu'il n'a jamais fait chez nous.
Et ça, ce sera donc le 11. Le lendemain, le 12.
Le 12, comme tous les deuxièmes samedis de chaque mois, vous avez rendez-vous à la Maison du Crieur. Avec Gérard Noël, c'est une manifestation organisée par la librairie Beau Livre. Et vous pouvez parler de photos anciennes, vous pouvez les faire expertiser ou tout simplement savoir de quand elles datent.
Et puis...
De 14 à 18h, pardon.
Le 15 mars, à la Petite Comédie, Daniel.
Oui, à la Petite Comédie, nous serons présents pour accompagner une manifestation encore dans le cadre du Printemps des Poètes, bien sûr, de Mahmoud Darwish, qui s'appelle « Le poème de la terre » et qui est mise en musique par le duo Murex. C'est à 19h. Et donc, je crois qu'il faut réserver les places parce qu'elles sont dans un nombre limité.
Et puis, il ne rentre pas grand monde à la Petite Comédie, donc il faut
rendez-vous sur le site de Confluence pour avoir, ou notre site à nous, librairiemontauban.fr, pour avoir plus de détails.
18h ou 19h ?
18h.
Alors, en 19h. Bon. Ah non, je tenais à le préciser.
Ah non, là, ça commence à 18h par une scène ouverte. Et la lecture musicale est à 19h.
Très bien. Messieurs, dames, avant qu'on se quitte et qu'on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, veuillez s'il vous plaît nous repréciser les titres et références des ouvrages présentés ce jour.
Philippe Claudel, L'arbre du pays Toraja, chez Stock.
John Moalem, L'hypo d'Amérique aux éditions du Sous-Sol. Et Jean-Claude Drouillet, du Missouri à Montauban, Je ne l'ai pas dit, c'est publié aux éditions La Brochure. Et il y a aussi le livre de Marie-Claude Feltestriger, Les Indiens Osages, enfants des eaux du milieu, publié chez Nuages Rouges.
Et pour ma part, c'était La Bombe de Franck Harris et c'est publié à la dernière goutte.
Merci, messieurs, dames. À mardi prochain pour un nouveau rendez-vous du libraire.
À la semaine prochaine.